Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Soyez féconds et remplissez la terre. Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour la terre que je te ferai voir. Bienheureux les doux, ils posséderont la terre. La terre est un thème très présent dans toute la Bible, tant juive que chrétienne. Elle sert de cadre et de référence aux longs récits bibliques. Terre confiée à Adam, terre promise à Abraham, terre espérée par Moïse et donnée au peuple d'Israël, terre perdue lors de l'exil et retrouvée ensuite, terre natale de Jésus qui symbolise le royaume qu'il annonce. Aujourd'hui, la terre d'Israël, que les Romains avaient appelée Palestine, est toujours à la une de l'actualité. Elle demeure l'enjeu d'une paix à construire entre tous les enfants d'Abraham. Nous proposons à nos auditeurs de consacrer deux numéros de Selon les Écritures à la terre dans la Bible. Père Alain, vous avez beaucoup travaillé cette thématique de la terre, y compris sur le terrain, puisque vous avez séjourné pendant 12 ans à Jérusalem, auprès de l'École biblique et archéologique française. Vous avez publié notamment deux ouvrages, l'un avec le jésuite David Neuhaus, intitulé « La terre, la Bible et l'histoire », paru en 2006 chez Bayard, et l'autre, intitulé « La terre dans la Bible », paru dans le cahier Évangile 162 en 2012. Ils nous serviront de boussole pour ce parcours historique, géographique et théologique sur la terre des Écritures. Vos recherches vous ont donc conduit à aborder ce thème de la terre à travers la lecture narrative de l'ensemble du récit biblique, c'est-à-dire au fil des livres qui constituent la Bible canonique. Vous écrivez que cette histoire sainte, cette histoire du salut des chrétiens, s'incarne dans un espace géographique singulier. Vous considérez la terre comme intrigue du récit et comme thème central de la foi biblique. Pourriez-vous expliciter votre approche qui peut sembler un peu technique à nos auditeurs ?
Oui, c'est vrai que quand on ouvre la Bible, aussi bien d'ailleurs la Bible juive que la Bible chrétienne, même si elles ont beaucoup de différences, on est frappé de constater qu'il y a un fil, il y a plusieurs fils narratifs selon le choix de la lecture, mais sans doute le plus puissant et le plus efficace, on pourrait dire, c'est celui de la terre. Car si vous regardez bien dans la Bible, si vous prenez la totalité de la Bible, quel est l'enjeu de la Bible, si on voulait le résumer en quelques mots? Vous avez autour de séries de livres, c'est une bibliothèque par certains côtés, donc avec des différences énormes dans ces bibliothèques avec des livres sur la sagesse, sur la loi, sur l'histoire. Mais en réalité, du début à la fin, y compris jusqu'à l'Apocalypse, il est question d'une terre, terre donnée, terre perdue, et une terre renouvelée avec l'Apocalypse, Jésus ouvrant des chemins nouveaux autour de cette terre. Donc il y a là un fil conducteur autour de la terre, depuis le début jusqu'à la fin. On pourra d'ailleurs en donner quelques accents tout à l'heure, mais je crois que c'est sans doute le motif qui traverse toutes les Écritures. Depuis le jardin d'Éden, c'est le symbole de la terre. Il a été, quand on a écrit le jardin, ce récit, c'est évidemment après l'exil. Et donc on a fait une espèce de métaphore de la terre sainte, avec cette idée que Dieu nous donne une terre riche, avec de quoi se nourrir, mais évidemment avec des contraintes, des lois, et le respect de la loi nous permettra de rester sur cette terre. Le refus de la loi fera que nous serons chassés de la terre comme Adam et Ève l'ont été au chapitre 2 et 3 de la Genèse. Donc c'est dire, on est dans un récit structuré autour de la terre avec évidemment des nuances sur lesquelles on va revenir maintenant.
Alors, vous venez de dire que le texte de Genèse 2-3 a été écrit pendant ou après l'exil. Et effectivement, dans votre ouvrage, vous expliquez que les exégètes et les historiens contemporains soulignent la grande fécondité de la période de l'exil pour la production et l'organisation des écritures. Vous-même utilisez l'expression « matrice de l'exil ». Les recherches récentes ont renouvelé les connaissances sur la formation du Pentateuque et la façon de le lire. En quoi le thème de la terre est-il concerné par ce foisonnement de l'exil, cette production ?
Vous avez déjà donné une piste. Vous dites que ça s'est écrit pendant l'exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil ? C'est le fait d'être chassé de sa terre. C'est un thème très moderne aujourd'hui. On le voit, notre pape nous invite à être attentif à tous ceux qui sont chassés de leur terre. Ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. L'expulsion de sa terre, c'est un motif qui traverse toutes les Écritures. Et au moment de l'exil, au fond, se pose une question qu'on pourrait déployer dans ces termes. Qu'est-ce qu'il reste au peuple d'Israël quand il a tout perdu ? Il a perdu la terre. Puisque les Mésopotamiens sont venus, ont chassé, ont détruit la ville et ont conduit l'élite des Juifs en exil. On a perdu la loi. On a perdu le roi. Qu'est-ce qui reste quand on a tout perdu ? Bien, il reste la Torah. Il reste ce que j'ai appelé, avec d'autres, on pourrait dire une terre portative. Quand Israël est chassé en exil, ils vont inventer une thématique qui va traverser tous les siècles jusqu'à aujourd'hui, qui est l'idée que le peuple juif transporte en lui une terre portative. Et avant la création de l'État d'Israël, aujourd'hui ça a un peu changé, on en reparlera tout à l'heure, il y avait cette idée que la terre portative d'Israël, c'est la Torah, c'est la loi. Et c'est là qu'on peut tout perdre, sauf la Torah. Car perdre la Torah, c'est perdre au fond son identité et le sens de la vie que Dieu nous a donnée. Mais tout le reste, la terre, le roi, les institutions, on peut les perdre. Mais pas la terre, pas la Torah. La Torah, c'est pour ça que j'insiste sur cette idée d'une terre portative. C'est l'image d'historiens juifs qui ont donné cette image.
Alors là, vous venez de nous donner une clé de lecture majeure pour ce long récit biblique. Et je vous propose peut-être, avec nos auditeurs qui ont peut-être ouvert leur Bible, de reprendre un petit peu les choses dans l'ordre chronologique. Alors, au commencement du récit biblique, il y a les 11 premiers chapitres de la Genèse qui constituent une sorte de préface. Mmh. Préface au Pentateuque, quelque part. Dans les deux récits de création, il est déjà question de la terre, vous venez de le dire, celle qui émerge du tohu-bohu et celle du jardin d'Éden. Comment ce thème va-t-il se développer jusqu'à Noé ?
Alors, Noé, il faut l'intégrer dans la même dynamique, c'est-à-dire
absolument, oui.
Les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est une sorte de grande préface qu'ont écrit des hommes de génie au retour d'exil pour... On pourrait dire unifier l'ensemble des Écritures, qui en avaient besoin parce qu'elles éclatent quand même un peu dans toutes les directions. Si on regarde bien, il y a des textes de loi, il y a des textes de sagesse, il y a des textes psalmiques, enfin, il y a toute une série d'approches. Comment unifier ces thèmes ? Et les 11 premiers chapitres de la Genèse vont unifier ces textes autour du thème d'une métaphore, on pourrait dire, qui est la métaphore de la terre, la métaphore du jardin, avec... déjà, tous les risques et toutes les chances que la terre va offrir au peuple d'Israël, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, le fait que Dieu donne la terre à Adam et Ève, terre riche, avec des arbres fruitiers, avec de belles choses extraordinaires, simplement avec un interdit. L'interdit, c'est la loi. La loi dit « tu ne feras pas cela ». Mais la loi n'est pas que interdit, la loi est ouverture. Simplement, tu ne mangeras pas de cet arbre, parce que c'est moi, c'est le mien, c'est ma vie, c'est mon domaine, tu ne peux pas entrer dans mon domaine. Et le péché d'Israël, le péché d'Adam et Ève qui symbolise le péché d'Israël, va entraîner l'expulsion du peuple des deux premiers personnages, Adam et Ève, symboles et figures de ce qui sera ensuite l'expulsion de la terre promise. Avec, vous évoquez le déluge. Le déluge, c'est un moment dramatique où déjà l'infidélité d'Israël transparaît, puisque Dieu dit « ce peuple est un peuple de pécheurs, je vais le faire disparaître », et c'est le déluge. Et Noé surgit, Noé survit justement avec sa famille, parce qu'il est un homme juste et qu'il va instaurer une nouvelle alliance, qu'on appelle l'alliance noachique, l'alliance de Noé, et ça va faire repartir, mais il y aura d'autres échecs, et il faudra attendre, on y viendra, je vais m'arrêter là, avec Abraham, qui sera un autre moment dans cette quête de la terre, cet envoi par Dieu de partir.
Le déluge a en quelque sorte submergé, effacé la terre pendant un moment.
Oui, et Dieu, justement, vous l'avez senti, dira après le déluge, chapitre 8, au chapitre 7, 8, il dira, il se repent d'avoir détruit la terre. Il se repent, comme si Dieu pouvait se repentir. Mais c'est une image, bien sûr. Et il dit, je ne recommencerai plus. Et désormais, je laisserai l'homme avec son péché. Simplement, le signe que j'en donne, c'est l'arc-en-ciel. Et les auteurs juifs disent, le signe de l'arc-en-ciel, c'est un demi-cercle. De qui ? Qui est responsable du second demi-cercle ? C'est l'homme. Dieu assume son premier demi-cercle en disant « Je ne recommencerai plus le déluge, mais toi, l'homme, tu es responsable de la terre, justement, cette terre qui traverse toutes les Écritures et que tu peux perdre si tu n'es pas capable de gérer la part qui te revient. »
Alors après Noé, on va arriver au chapitre 12 de la Genèse avec un des plus grands personnages de la Bible. Abraham, qui est appelé à quitter son pays pour la terre que Dieu lui montrera. Nous avons fait une émission d'ailleurs là-dessus et nous aurons certainement l'occasion d'ailleurs d'y revenir. Et les caractéristiques de cette terre promise, elles font se préciser en Canaan. C'est la première fois que ce nom est utilisé. Mais Abraham et ses descendants vont être confrontés à l'incertitude de ses frontières. Qu'en est-il, Père Alain ? Comment cette terre promise à Abraham va se concrétiser ?
Abraham est un personnage évidemment unique. Abraham vient dans une terre, la terre que je t'ai promise, pour le pays que je te montrerai. C'est beau, cette formule. Et les traditions juives, et nous aussi, commentateurs des Écritures, on se dit, cette idée que la terre est une terre que Dieu nous montre. Dieu n'arrête pas de nous montrer la terre, c'est-à-dire cette terre que nous habitons, et la vocation à être toujours pointée par le doigt de Dieu qui nous dit « C'est la terre que je te donne, c'est ma terre. » J'y reviendrai tout à l'heure avec les prophètes, « C'est ma terre. » Je vous donne un petit exemple qui m'a marqué dans mes déplacements dans ma vie. Un jour, je suis allé au Congo pour faire une série de retraites et de conférences, et on m'avait demandé de faire une conférence sur la terre. C'était dans le département de Béni-Boutembo, donc dans la région de Grand Est, les grands lacs de l'Est de l'Afrique. Et à la fin de ma conférence, il y a des gens qui sont venus me trouver et ils m'ont dit « Mais vous avez parlé de nous ?» J'ai dit « Mais non, j'ai parlé d'Israël. » Il dit « Mais tout ce que vous avez raconté, c'est ce qui nous arrive avec nos voisins qui nous volent notre terre. » Et nous nous battons pour essayer de la garder. Ça veut dire que ça a une valeur universelle, tout ce qui touche à la terre. Et on le sent bien dans les enjeux politiques sur lesquels nous reviendrons un peu à la fin. Mais c'est une terre qui est unique, c'est une terre que je te montrerai. C'est-à-dire toute terre, au fond, a vocation à devenir ou à rester une terre que Dieu nous montre. Or, une terre que Dieu nous montre ne peut être qu'une terre respectueuse de la terre, de ses possibilités, de ses richesses aussi, tellement c'est dangereux et que nous risquons de la détruire par nos péchés, par nos fautes, par tout ce que nous faisons aujourd'hui, payer à cette terre.
Alors, on continue à grandes enjambées le récit. Et dès l'ouverture du livre de l'Exode, cette promesse de la terre se rapproche. Dieu se révèle à Moïse sous un nom nouveau, Yahvé le Seigneur, le tétragramme. Il lui donne la mission de faire sortir le peuple de son esclavage en terre d'Égypte pour aller vers la terre qui ruisselle de lait et de miel. Le voyage passe par le Sinaï avec le don de la Torah. En quoi concerne-t-elle cette terre? Vous en avez parlé déjà tout à l'heure, comme une des clés de lecture. En quoi la Torah concerne-t-elle la terre?
Disons que l'Exode, c'est le cœur du Pentateuque. On pourrait dire le reste, c'est une préface, même si Abraham joue un rôle important. Hein. Mais le cœur même du rapport à la terre, c'est lorsque Dieu appelle Moïse, lorsqu'il lui indique son nom, je suis qui je serai, Erhié, Asher, Erhié, je suis qui je suis, qui je serai, enfin, intraduisible. Mais ce nom, c'est un nom de, on pourrait dire, c'est un nom de voyage. Et le voyage commence à la sortie d'Égypte vers la terre promise avec la longue patience au fond dans le désert, avec là encore le péché du peuple d'Israël qui trahit son Dieu comme Adam et Ève ont trahi leur Dieu. C'est la même thématique et on peut penser que c'est le péché d'Israël pendant le désert qui a influencé la relecture ou l'écriture des premiers chapitres de la Genèse. C'est la route. C'est le passage, c'est le lieu, au fond, de la fidélité aussi. C'est le lieu où Dieu est proche de son peuple. Et je te conduirai dans ce désert pour te conduire avec amour. Et ça dure 40 ans, vous connaissez l'histoire. Et Moïse, il est celui qui tient à bout de bras ce peuple. C'est vraiment l'homme de Dieu. Et celui, alors ça aussi, peut-être le plus pathétique dans ce voyage, celui qui a mission de conduire dans la terre où coule le lait et le miel, comme vous l'avez dit, et qui n'arriverait pas à y entrer lui-même puisqu'il
ne franchira pas le Jourdain.
C'est terrible.
Oui. Il y a eu effectivement, après la traversée du désert promontique, ce long temps d'attente là devant le Jourdain où ils n'ont pas traversé.
Ils ont attendu et puis c'est là que Josué va prendre le relais. Enfin, toute une série, l'histoire continue. Mais une fois qu'on est entré dans la terre, c'est autre chose. Quelque chose de nouveau commence et va germer là à travers beaucoup d'événements cette idée que cette terre est une terre, oui, où coule le lait et le miel, mais surtout une terre aussi d'alliance, une terre d'obéissance que l'on peut perdre si l'on est infidèle au Dieu. Tout à l'heure, vous avez évoqué Abraham. Ce serait intéressant de se dire que Abraham, quand il a voulu acheter un tombeau pour sa femme, on a voulu le lui offrir. Les Hittites lui ont dit « on te l'offre ». Et Abraham a dit « non, je veux payer ». Il a payé comme s'il voulait montrer qu'il était respectueux de ses habitants qui étaient là, les Cananéens. Ils étaient là, et on le répète dans les discours, il y avait des Cananéens, et on dit, pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils ont péché. Et si toi tu pêches, tu devras aussi partir.
Alors ensuite, il y a quelques textes un peu dérangeants dans l'Exode et le Deutéronome, parce que cette terre promise, elle était déjà peuplée par des groupes humains, bien évidemment. Et il apparaîtrait même que Dieu prend la terre à certains pour la donner à d'autres, notamment à ces migrants qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut dire brièvement là-dessus?
Est-ce qu'on peut dire des choses brièvement
non.
Sur ce plan-là? Certainement pas, parce qu'on touche là l'enjeu actuel de la géopolitique et que certains préfèrent appeler la géothéologie. Quand on parle de la terre d'Israël, oui, elle était habitée. Et quand on y reviendra peut-être dans la deuxième étape que nous ferons, donc je ne vais pas le développer maintenant. Mais je me contente de dire que Abraham était conscient qu'il y avait des habitants dans le pays. Il les a respectés. Et lorsque les Hébreux reviennent, ils vont respecter les habitants. Et quand on dit qu'ils ont été chassés, la raison, c'est parce qu'ils ont péché. Et Dieu dit, si tu pêches, toi aussi tu seras chassé. C'est-à-dire, on laisse entendre que la terre est une terre, au fond, pour la fidélité. Et ceux qui ne respectent pas cette fidélité, eh bien, ils perdent cette terre, symboliquement, on pourrait dire. Mais évidemment, quand on va venir, ce sera notre deuxième étape sur la terre, mais on pourrait y passer plus de deux étapes, parce que, comme vous l'avez dit, j'ai consacré deux livres à cette terre, et tout à l'heure, je reviendrai un peu sur cette figure que vous avez citée, David Neuhaus, avec qui j'ai travaillé, parce qu'il est un personnage intéressant et éclairant pour comprendre la terre d'Israël.
Voilà, bah nous sommes effectivement au terme de cette première émission. Le suspense est entier. Merci à vous, Père Alain Marchadour, d'avoir commencé à nous partager le contenu de vos livres. Merci aussi à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web de votre radio. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez nous envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la suite de cette série sur la Terre dans la Bible. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne.